le poids éternel de notre agir en union avec le Christ. Nous nous préparons à la grande fête de Noël et nous le faisons aussi bien que nous pouvons parce que le monde nous accapare au point que le recueillement devient toujours plus difficile. Nous le faisons aussi parce que nous vivons au milieu d'un grand nombre de gens de facto incroyants, mais qui essaient de fêter Noël à leur manière. Mais qui observe les yeux ouverts les festivités générales de ces journées et les vit d'un cœur éveillé, ressentira inévitablement assez souvent un profond malaise. Noël n'est-il pas une consolation idéale qui ignore pour un temps les flots du péché imprégnant sous ses multiples manifestations l'histoire du monde, qui se cramponne au passé et essaie de raviver en nous une tremblante flamme d'optimisme? Le fait brutal de l'impiété religieuse ne contredit-il pas l'acte rédempteur du Fils de Dieu fait homme qu'exalte l'Église? Où pouvons-nous rencontrer ce salut de l'humanité et de chaque individu célébré à chaque Noël? La vie chrétienne ne montre-t-elle pas dans notre Occident, dans notre Europe, des signes d'une longue mais inexorable agonie? Et cependant, la foi chrétienne catholique célèbre en cette sainte nuit la victorieuse et définitive rédemption du monde. C'est en toute rigueur l'unique sens de cette fête. Comment doit-on le comprendre et le vivre sans s'éloigner de la réalité? Tout d'abord, il nous faut souligner que la rédemption accomplie par le Christ ne vaut que pour le péché et non pour les maux du monde, de la société, de l'Église, sous lesquels nous avons à souffrir jour après jour. La rédemption signifie l'action libre de Dieu, l'action de l'incarnation de Dieu par laquelle fut supprimée l'insupprimable perdition du monde. Il nous faut sans cesse faire des efforts pour croire en cet essentiel de notre foi et en vivre réellement, à savoir que Dieu s'est fait homme et resté Dieu cependant, mais aussi homme, que le Fils de Dieu n'est pas devenu homme seulement formellement, extérieurement, mais qu'il a vraiment pris sur lui l'humanité avec tout le poids du péché, de telle sorte que saint Paul dit qu'il s'est fait péché. Il a expié pour tous par sa mort et sa résurrection la vie sur terre, la vie dans le temps et obtenu pour tous le salut. Mais deuxièmement, il faut aussi souligner que ce salut n'est donné qu'à ceux qui s'y ouvrent, qui veulent avoir part à cette action de Dieu. C'est une acceptation volontaire. Même ce qu'il y a de meilleur, de plus saint, Dieu ne veut pas nous l'imposer. Il ne veut contraindre personne. Il a fait la chose la plus sublime. Mais ce n'est pas pour chacun qu'une offre. Nous vivons dans ce mystère du Christ, de ce Seigneur, du Fils de Dieu, qui cachait une vie divine en l'homme. Par là, nous restons tous cachés avec le Christ en Dieu, ainsi que saint Paul a défini notre vie. Ceci est par excellence la réalité essentielle, à la fois cachée et protégeante du chrétien. C'est ce mystère qui fait de la liturgie de Noël une expérience qui ne consiste pas en la simple représentation d'événements passés qui furent réalité autrefois, mais qui ne peuvent être fêtés qu'en souvenir aujourd'hui. Non, la liturgie est la célébration du mystère du Christ, qui aujourd'hui comme hier est actuel, et agissant comme source de la grâce vive et du salut. Ce mystère salvifique du Christ ne représente pas une ligne droite depuis Noël jusqu'au dernier avènement du Seigneur, ligne que, liturgiquement, nous suivons toujours à nouveau par un exercice de l'imagination, comme si nous regardions année après année le même film. Elle est un cycle. Là où il s'achève, il commence à nouveau, mais toujours à un niveau supérieur, où le dimanche est à la fois le premier et le huitième jour. La liturgie est annonce et révélation de l'éternité. Cette éternité est le présent de Dieu, la présentialité immuable de l'être absolu qui ne peut passer. Cette éternité divine, le Christ l'a reliée au temps et les sacrements qu'il a institués et confiés à l'Église renouvellent et confortent ce lien avec son vivant mystère salvifique. Tout ce que réalisent les sacrements pour chaque chrétien, la liturgie le réalise aussi pour le corps entier. Elle nous rend capables de sanctifier le temps qui passe et d'unir nos actions à celles du Seigneur, de telle sorte que chaque action atteigne une valeur infinie, comme on peut dire avec saint Paul, ceci a un poids éternel. Unis au Christ, chacune de nos actions atteint ce poids d'éternité, c'est-à-dire que la vie éternelle mûrit en nous peu à peu. Toute la liturgie de Noël met l'accent justement sur cette actualité du mystère qu'elle fête. Odi, aujourd'hui, le Christ est né aujourd'hui. Apparuit, aujourd'hui. Cantant Angeli, Gloria in excelsis Deo. Mais comment cet aujourd'hui peut-il être quelque chose de réel? Il n'en va pas de l'événement historique de la naissance du Christ à Bethléem, mais du mystère éternel que révèle cette naissance. Cette naissance, disent les anciens maîtres de la théologie et de la spiritualité en Orient et en Occident, est un sacrement au sens le plus originel de ce terme. Le jour vient où nous fêterons le sacrement de la naissance du Christ, et saint Léon le Grand écrit « Ce jour appartient sans conteste au passé, mais pas dans le sens que l'action du mystère révélé soit déjà tarie et qu'il ne nous reste plus qu'un simple souvenir. Le don divin, le propre Fils, fut donné de sorte qu'il devienne notre chair. Le don divin se renouvelle aujourd'hui et notre temps connaît aujourd'hui le prodige dont le passé recueillit les prémices. Renouveler le don divin signifie que la liturgie nous offre le moyen, nous rendant possible d'avoir part à ce mystère. En outre, le Christ reste homme aujourd'hui et pour l'éternité. Il n'est pas qu'apparu quelques années sur cette terre comme homme, mais il s'est fait réellement homme, restant homme à la droite du Père. Il conserve les blessures de la passion, les souffrances qu'il a éprouvées en ce monde, tout vit en lui pour l'éternité. Il est encore enfant, aussi cet enfant-là que Marie engendra dans l'étable de Bethléem et que les rois mages ont adoré plus tard. Vu d'un point de vue psychologique aussi, chaque être humain porte en soi, toujours et partout, sa propre enfance. De même, les plantes et les arbres tirent leur propre vie des racines, même s'ils ont grandi depuis longtemps bien au-delà d'elles. De même aussi, notre futur croît-il toujours depuis notre passé, et notre passé revient toujours dans le futur. Pas le même, mais pas autre non plus. Mais le même renouvelé. Le jeu de l'enfant n'était-il pas en germe l'œuvre de l'adulte? Ainsi le Christ est-il aujourd'hui ce qu'il était sur terre? Il est le même homme pour toujours, particulièrement transformé dans sa corporéité, afin qu'il puisse vivre réellement dans l'éternité. Mais l'homme est le même. Être né signifiait pour Jésus-Christ que le Fils de Dieu, en un jour précis de l'histoire universelle, s'éveilla comme homme. Un corps et une âme furent créés et la deuxième personne de la Trinité les assuma. Ce corps, il ne l'a pas créé de rien, mais du sein de la Vierge Marie. Mais cette naissance est d'une certaine manière une nouvelle forme de la naissance éternelle du Fils, du sein du Père, de sorte que l'exclamation du Seigneur « Aujourd'hui, je t'ai engendré » vaut aussi pour sa génération et naissance dans le temps. La naissance temporelle de Jésus-Christ recèle quelque chose de la naissance intemporelle du Logos dans le sein du Père. Si nos actions les plus petites acquièrent, de par notre union avec le Christ, un poids d'éternité, l'union de l'humanité du Christ avec la divinité doit éprouver encore plus profondément la persistance de sa personnalité humano-divine. Cette persistance n'a pas seulement lieu dans sa conscience, mais aussi en relation avec nous. Saint Léon disait que cette fête est la fête de notre origine. Avec le Christ qui est à la tête, est aussi engendré son corps que nous et tous les enfants de l'Église formons. Nous voyons alors comment le Christ naît toujours. Son corps, cependant, n'est pas encore achevé. Il doit s'incorporer tous les êtres au cours des siècles, les rattacher tous à sa passion et à sa résurrection, et donc à sa naissance. De là viennent les expressions des plus anciennes liturgies de l'Église qui étaient très réalistes, beaucoup plus que dans notre langue. En Espagne existe encore dans une église la liturgie mozarabe, une des plus vieilles qui soit dans laquelle on prie à Noël. Nous te prions, ô Seigneur, que ton invisible divinité nous incorpore à elle. Là, nous nous trouvons au centre et au cœur de tout le christianisme, de toute notre foi. Que Dieu s'est fait homme pour que nous devenions des hommes de Dieu. Admirabile commercium, quel échange merveilleux lorsque le Créateur de l'homme prit un corps et une âme et condescendit à naître d'une vierge sans participation d'un homme. Par là, il nous a fait participer à sa divinité. La prière d'offertoire de notre messe de Noël, extrêmement réaliste, dit « Fais, ô Dieu, que par ce très saint échange, nous lui devenions semblables, unissant notre nature avec ta nature. » L'actualité de cet échange constitue justement l'actualité de la naissance du Christ en chacun de nous. Lui, le Logos, est notre vraie espérance. S'étant mélangé avec l'homme, ayant assumé toute notre nature pour que notre humanité se divinise et atteigne la sainteté. Le Christ est toujours encore le levain, et chaque chrétien devenu le Christ dès le baptême fait fermenter, rédime et divinise le monde. Maintenant, à la fin d'une année pleine d'efforts, de tentatives, de déceptions, d'illusions et d'échecs, fatigués et usés, nous ressentirons peut-être la tentation de baisser les bras. C'est maintenant que nous pouvons et devons justement lever les mains. C'est le bon moment, le moment du salut, puisque lui seul peut nous élever, nous consoler, nous sauver. Le Seigneur est proche des cœurs brisés. Il vient en aide à ceux qui sont contrits. Et dans cet état d'esprit très réaliste, nous pouvons fêter et nous embrasser. Car Noël est actualité du salut, actualité d'une joie venue d'en haut. Le sourire du Dieu qui joue. La fête de Noël, comme fête de l'enfant Jésus et comme désir permanent d'innocence et le besoin général de bonté et de simplicité, font que les enfants deviennent en ces jours le centre de beaucoup de réunions familiales et sociales. Mais le jeu, le rire, le chant des enfants ne sont pas seulement le signe de la vitalité spontanée et une forme d'expression de leur intelligence et de leur personnalité en germe, mais réalisation particulièrement exemplaire de l'existence humaine qui correspond beaucoup mieux au projet du Créateur que notre sérieux et notre activité. Nous devons certes éduquer les enfants, Mais peut-être devrions-nous bien plutôt nous laisser enseigner par les enfants. Ce n'est pas en agrégeant force, science, expérience et initiative que nous surmonterons les questions capitales de notre vie, mais en jouant dans la foi avec la mystérieuse providence de Dieu qu'aucune connaissance humaine ne peut saisir. On peut bien entendu aspirer à la santé, à la fécondité et à l'amour. Cependant, nous les obtenons en tant que cadeaux, comme l'eau imprévisible d'un jeu dont Dieu seul connaît les règles. Ce jeu a commencé avec le premier jour du monde, comme nous le raconte la Bible, lorsque toute la sagesse de Dieu, qui est Dieu lui-même, créa le monde et l'homme de façon particulièrement désintéressée, sans autre finalité que l'amour qui est Dieu lui-même. L'Écriture dit que la sagesse de Dieu jouait, mais ce jeu fut l'origine de tout l'univers et de la créature individuelle. Je trouvais mes délices parmi les enfants des hommes. C'est pourquoi ce jeu du commencement atteint son point culminant justement à Noël, quand Dieu descend pour être avec les hommes. L'homme, nous le savons, était perdu, puisqu'elle a voulu se séparer de Dieu. C'est le péché de tous les temps. Pour sauver cet homme, Dieu descend d'en haut. Soudain, Dieu est là, non pas comme un puissant qui convainc et convertit tous par sa sagesse, non pas comme un roi puissant qui met tout sous son joug, mais le sauveur du monde est cet enfant, dans cette étable d'un village reculé. Ce n'est pas du sentimentalisme, c'est la réalité de l'histoire. Dieu joue et sourit de nous les hommes. Il ne s'amuse pas comme le dieu de Platon ou d'Aristote, se moquant de notre théâtre, mais il sourit comme une bonne mère sourit de la peur de son enfant devant un petit chien. Ou il rit comme un père qui rit de son enfant qui essaie d'aller bien trop vite, qui trébuche et tombe. C'est comme un père qui rit des balbutiements de son enfant qui ne sait pas encore parler, mais qui essaie cependant de s'exprimer. Le rire de Dieu se révèle dans la nuit sainte, avant tout par l'événement surprenant, complètement impensable dans l'histoire d'un peuple violent qui a toujours tremblé devant Dieu et qui attendait un Messie censé lui apporter puissance et indépendance politique. Il attendait en effet un puissant auxiliaire. Mais voilà qu'arrive ce sourire du Dieu qui joue, le fils supposé d'un charpentier sans toit. Et cet enfant apporte la vraie rédemption, le salut de toute l'humanité. N'est-ce pas un jeu de Dieu ? Les mouvements ludiques désordonnés de cet enfant sur la paille sont tout aussi salutaires que les miracles qu'il fera plus tard en Galilée et en Judée. Les pleurs et les sourires dans la crèche sont aussi efficaces et salvifiques que sa future mort sur la croix, que son triomphe par la résurrection et l'ascension. Dieu est toujours Dieu, et tout de Jésus nous sauve. Ouvrons nos yeux, nous, hommes prétentieux de notre siècle, et considérons le salut du monde en cet enfant, et nous apprendrons à sourire. La peur ancestrale de l'homme, la peur de la mort, se transforme en sourire devant cette crèche. Il a choisi cette forme d'apparition et cette manière de rachat pour nous apprendre à sourire, à nous frimeurs, ridicules et lourdeaux, et pour nous faire entrer joyeusement dans cette grotte de Bethléem. Le dieu de la grotte nous amène à rire des gens qui vivent dans des gratte-ciels. Le dieu proscrit nous fait rire des gens qui ont réussi. Le dieu enfant nous fait rire des soi-disant grands hommes. Le dieu pauvre nous fait sourire de la richesse. Le dieu sans défense nous fait rire des gens en armes. Et ce dieu livré à tous les dangers nous fait sourire des assurés et réassurés. Le Seigneur qui a pris figure d'esclave vient à nous comme serviteur, pour nous enseigner ce que signifie réellement régner. Sourira celui qui a un cœur libre, celui qui sait s'en remettre jour après jour à la mystérieuse providence divine, celui qui essaie de danser au rythme de sa musique unique, qui harmonise essai après essai sa propre volonté avec la volonté de Dieu. Il sourit sans cesse et de bon cœur, celui qui monte sur sa propre croix et y étend les bras, sans distraction et anesthésie d'aucune sorte. Ce sourire est un devoir qui incombe aux chrétiens, et quand il disparaît de notre vie, c'est signe que nous nous sommes éloignés de Dieu, de cette grotte, de cette joie descendue du ciel. C'est signe que nous sommes devenus grands, alors que seuls les enfants entrent dans le royaume des cieux. Toutes les vraies vertus sont riantes, comme la patience qui sauvera notre âme. Une patience sérieuse n'est pas chrétienne. La patience chrétienne sourit, comme aussi la diligence qui est au service des personnes et non du moi égoïste. L'humilité sourit, qui malgré tout accepte de tout cœur les limitations de la nature. La pureté sourit, qui verra Dieu, comme l'a dit le Christ, et qui, portée à son extrême dans la Vierge Marie, a mis en ce monde Dieu lui-même. La contrition et la pénitence sourient, quand elles ne se regardent pas tant elles-mêmes, mais ne veulent trouver leur satisfaction qu'en Dieu. Il nous faut rire beaucoup pour devenir vraiment bons, et même saints. Rire de ceux qui sont si pressés, de ceux qui croient en eux-mêmes, de ceux qui passent leur vie entière devant un miroir, de tous les gens qui ne peuvent rien faire sans cajolerie et applaudissements, de ceux qui cherchent sans répit de nouvelles théories, des livres importants, des discours convaincants, des méthodes infaillies. Rire de moi et de toi, d'elle et de lui, sans jamais se moquer de quelqu'un, mais sans non plus prendre quoi que ce soit trop au sérieux en ce monde. Dieu seul importe. Dieu seul suffit comme fondement de notre vie quotidienne, pour le dire avec sainte Thérèse. Voici l'enfant. Près de lui et avec lui, personne ne peut être triste. Personne ne peut se prendre au sérieux et important. Ce rire n'offense nullement la misère et la souffrance de notre monde, car en fait, ce rire éclot assez souvent dans les larmes. Les vrais Samaritains, audacieux, zélés, compatissants, ne sont pas des rebelles en colère, ni de pitoyables théoriciens du progrès mondial, ni des critiques grincheux, mais des hommes qui ont pleuré leur saoule et obtenu par là le plus pur rire ou sourire, le sourire de la consolation. Pleurer jusqu'à en rire, à l'opposé du célèbre rire à en pleurer. Des superficiels, des éméchés et des hystériques. Celui qui a éprouvé ce mélange de souffrance et de joie, qui rougeoie en cette crèche à Noël, ne désespérera jamais, car les larmes que Dieu lui-même a assumées, et même qu'il a pleurées, seront toujours douces et jamais amères. Leur ruissellement à travers les souffrances de l'histoire de l'humanité voile le sourire mystérieux de l'infinie bonté divine et débouchera au jour des jours dans la mer du bonheur définitif. Ils riront au dernier jour. En chemin, ce rire et sourire est dans l'espérance, l'attente, la persévérance, une anticipation de l'au-delà, détachement du poids des soucis terrestres, libération du fol narcissisme. C'est pourquoi tous les saints sourient, les martyrs et les mystiques comme saint Thomas d'Aquin de son propre savoir, Thomas More de sa mort, la grande et la petite Thérèse, Jean le Baptiste avant de naître, Jeanne d'Arc sur le bûcher. Jean signifie « Javé a béni » et aussi sourire, grâce, charme. Ces vertus rendent possible de mener à bien ce qui est difficile sans sombrer dans le titanesque. Tout sourire dans l'histoire vient de cette grotte sacrée, de cette étable en ruine qui a hébergé le Dieu fait homme, de ce qu'il me soit fait selon ta parole, de ce magnificat, de la comblée de grâce, de la seule créature parfaite, de Marie, la gracieuse, Grazia, signifiant en effet à la fois grâce et charme. Les saints sont héroïques sans grande manière. Maintenant, nous essaierons ces jours-ci de nous incliner un peu de nous faire plus petits pour pouvoir entrer dans cette grotte. Essayons au moins une fois dans l'année de devenir des enfants, de laisser de côté notre orgueil, notre sérieux vaniteux, afin de pouvoir nous aussi entrer dans le royaume des cieux qui s'ouvre sur terre en cette sainte nuit. À l'intérieur de cette grotte, devant cet enfant Dieu, nous réussirons à jouer, à chanter, à sourire, à nous embrasser avec la joie des pécheurs qui d'un coup se savent sauvés puisque Dieu comme homme veut jouer avec nous dans la vie. Prions. Prions ensemble. Seigneur Jésus, puisque tu es venu dans le monde pour être notre frère, fais que nous découvrions la source cachée de la joie dans ta présence, la joie des êtres pauvres, la joie non pas liée à des circonstances intérieures ou extérieures, mais constante comme sont constantes ta bonté et ta miséricorde. Fais-nous ressentir et irradier cette joie que ne peuvent réprimer aucune souffrance, aucune situation déplorable du monde ou de l'Église. La joie que notre péché lui-même ne peut éteindre, car tu es plus grand que notre cœur. La joie simple et sobre des enfants de Dieu en chemin sur cette terre qui convaincra et entraînera les égarés, plus que tous nos discours et comportements. La joie qu'à travers ton sacrement, tu tiens toujours prête pour nous et que nous ne voulons plus négliger. La joie qui seule nous fait être bons, bons envers toi et envers le prochain. Fais que jamais notre rire et sourire ne grimacent l'ironie ou la morgue, qu'ils soient le reflet et le prolongement de la joie dispensant l'amour de la sainte nuit, des anges qui chantent, de Joseph qui rêve et de la douce et pure Vierge et Mère Marie. La bonté du Dieu fait homme. Réjouissez-vous, nous dit l'Église avec insistance en ces jours qui précèdent Noël, avec les paroles de saint Paul. Une fois de plus, je vous le dis, réjouissez-vous. Le Seigneur est proche. Proche, il l'a toujours été. Dieu a toujours été complètement présent à toutes les créatures. Sinon, ni la fourmi sur terre, ni le merle dans les airs, ni les galaxies, ni les océans ne pourraient subsister. Il est l'être de tout étant. Il déborde parce qu'il est l'amour et il donne de participer de son être à tout ce qui existe. S'il n'était pas présent, les montagnes s'effondreraient, tout serait réduit au néant en un instant. La présence de Dieu est absolument nécessaire afin qu'existe, respire, vive quelque chose en ce monde. Mais Dieu est encore plus présent en chaque homme, si l'on peut parler ainsi, car il lui a insufflé son propre esprit. L'homme vit de l'esprit de Dieu lui-même, et c'est pourquoi l'homme est à l'image et ressemblance de Dieu, et Dieu est présent en lui. Il est en moi, et ainsi j'existe, je vis, comme l'a dit saint Paul aux païens à Athènes. En lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Cette présence de Dieu dans toutes les créatures n'est pas comme un éther, une atmosphère qui rend la vie possible, mais c'est le fondement réel de l'être propre, la source de notre respiration, de notre liberté, de notre dignité. Il y a exactement 2000 ans, Dieu a mis en œuvre un plan qui, comme tout ce qui est divin, était éternel, qui a toujours été là dans l'esprit de Dieu. C'est une invention de Dieu qui était vraiment inouïe. L'est et le sera, une nouvelle forme de sa présence dans le monde. Elle s'appelle l'incarnation. Voilà 2000 ans que Dieu s'est fait homme. Cela se laisse dire facilement, mais c'est complètement incompréhensible, tout comme Dieu est incompréhensible. Comment Dieu peut-il se faire homme? Comment le Créateur peut-il se faire créature? C'est le prodige de tous les prodiges du Dieu incompréhensible que lui-même soit entré dans sa création, lui l'éternel dans le temps, lui l'esprit pur dans la matière de ce monde. Il a inventé et créé quelque chose de nouveau, un corps et une âme pour soi, le corps de Jésus-Christ, l'âme de Jésus. Il y a 2000 ans, il commence à être dans le monde d'une manière complètement nouvelle, comme une créature parmi les créatures, mais une créature particulière parce qu'il est Dieu et le sera toujours. Cette arrivée sienne sur cette terre, Dieu l'a déjà fait pressentir au peuple d'Israël. Il lui a fait espérer que lui-même viendrait. Ce peuple, qui a cru en Dieu, au Dieu unique, à l'encontre de l'idée des dieux multiples de toutes les autres cultures, il ne leur a pas seulement révélé « Je suis le seul Dieu », mais aussi « Je viendrai à vous ». Ils ne savaient pas pourquoi, parce que eux-mêmes s'étaient éprouvés comme pécheurs, puisqu'ils avaient trahi ce Dieu unique en mettant de nombreuses fois leur confiance dans les dieux des peuples païens qui les environnaient. Dieu n'avait eu de cesse d'aller les rechercher. Ils furent écrasés, opprimés par d'autres peuples. Ils marchèrent 40 ans dans le désert, toujours en guerre. Mais ce Dieu qui les conduisait leur a fait savoir par les prophètes qu'il viendrait un jour en personne, comme le Messie promis. Tous l'ont attendu. Et voilà qu'il y a exactement 2000 ans, ce Dieu caché est apparu, et saint Paul le dit avec ses paroles. Je ne peux que le répéter sans cesse, parce que ces paroles m'ont aussi particulièrement touché. Un jour concret de l'histoire du monde, le Dieu caché est apparu, mais de façon stupéfiante, non comme le Tout-Puissant qui détruit les idoles, punit les pécheurs et récompense les justes, non comme le roi des rois, le seigneur des armées, est apparue la bonté, l'amour pour les hommes de Dieu, notre Sauveur. Là, il nous faut réellement nous pencher et entrer dans cette petite grotte pour voir, pour contempler l'apparition du Dieu grand. Sont apparues la bonté et l'amour pour les hommes de notre Sauveur, pour nous délivrer de fausses représentations de l'essence et de l'agir de Dieu, pour nous entraîner aussi jusqu'à sa perfection, qui consiste en la bonté et amour des hommes. Le divin s'est rendu visible. Qu'est-ce que ce divin? La bonté et humanité de Dieu qui vient à notre rencontre sous forme humaine, dans une version humaine, pour que cette humanité et bonté de Dieu puisse nous entraîner et nous conduire à l'accomplissement de notre destinée. Bonté et amour envers les hommes, en cela consiste la perfection de Dieu, la perfection chrétienne et aussi notre mission dans le monde qu'on appelle l'apostolat. La mission, l'évangélisation consiste à donner à voir la bonté et l'amour de Dieu envers les hommes. La bonté qui toujours et partout conduit à faire et à dire du bien parce qu'elle découle de l'essence de Dieu, parce qu'elle n'appartient pas au noyau d'une morale, mais constitue l'essence même de Dieu, comme Jésus l'a dit à quelqu'un qu'il avait appelé bon maître.